Et on retrouve Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Des chars arborant le drapeau israélien déployés dans la zone frontalière côté palestinien.
Oui, ce matin, l'État hébreu a lancé son opération militaire au sol à Rafah. L'armée assure par ailleurs avoir pris le contrôle du point de passage avec l'Égypte au sud de l'enclave, principale porte d'entrée de l'aide humanitaire. Et ce, alors que de nouvelles discussions doivent avoir lieu au Caire, après le feu vert donné hier par le Hamas, un projet d'accord présenté par les pays médiateurs pour mettre fin à la guerre. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Alain Diekhoff, directeur du Centre de Recherche International de Sciences Po. À un mois des élections européennes, comment relancer la campagne? Un meeting est prévu ce soir à Paris pour la tête de liste macroniste Valérie Ayer, désormais talonnée par Raphaël Glucksmann, donnée à seulement un point d'écart. Enfin, on reviendra sur cette enquête selon laquelle les discriminations comme les violences sexistes à l'hôpital perdurent sans que la parole des victimes ne soit crue ni même protégée. 7 mois, jour pour jour, après l'attaque terroriste du Hamas et le début de la guerre de représailles menée par l'État hébreu, l'armée israélienne a donc commencé ce matin à déployer ses chars dans Rafah pour y éliminer les derniers bastions du mouvement islamiste. Et ce, en dépit des condamnations internationales, face au risque possible qu'une opération militaire au sol ne conduise à la mort des milliers de Gazaouis déjà apeurés, affamés et entassés dans cette localité sud de l'enclave où ils espéraient pourtant avoir trouvé un refuge et devenu entre-temps un piège ou à tout le moins un cul-de-sac duquel ils ne peuvent désormais se sauver pour échapper à la guerre. Quoi qu'il en soit, voilà déjà plusieurs semaines, c'est vrai qu'Israël laissait planer la menace d'une telle opération. De manière plus inattendue, en revanche, celle-ci intervient quelques heures seulement après que le Hamas a dit hier soir accepter la proposition de trêve soumise par les médiateurs qataris et égyptiens. Alors pour se justifier, le gouvernement de Benjamin Netanyahu soutient que ce projet d'accord était trop loin des exigences israéliennes, ce qui n'empêche pas certains hauts responsables et diplomates de s'interroger malgré tout sur la volonté réelle du Premier ministre de parvenir à un cessez-le-feu. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Pour l'heure, Israël a donc fait le choix d'exercer toujours davantage de pression militaire sur le Hamas. Que sait-on exactement, Étienne, de l'opération en cours à Rafah?
Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt une opération militaire éclair qu'une offensive massive. Elle est située sur le tiers est de la ville de Rafah et elle permet de prendre le contrôle pour les Israéliens du poste frontière côté palestinien. Des bombardements ont accompagné cette avancée pendant la nuit. Des images de chars et des drapeaux israéliens ont été diffusées sur les réseaux sociaux depuis la frontière de Rafah. Les hôpitaux de Rafah ont comptabilisé 27 morts pendant la nuit. Le Hamas affirme avoir répliqué avec des tirs de roquettes sur le poste israélien de Kerem Shalom. L'ONU dit qu'elle n'a plus accès à cette frontière. D'après les Israéliens, cette opération est limitée. Elle arrive 2 jours après des tirs de roquettes des groupes armés qui avaient visé le point de passage de Kerem Shalom et qui avait tué 4 soldats israéliens. Elle est soutenue par la majorité du cabinet de guerre de Tel Aviv et elle permet aux Israéliens de sceller l'enclave, de contrôler une partie de la frontière et les éventuels tunnels qui passent en dessous et de mettre la main sur l'aide humanitaire pour s'en servir potentiellement de levier au profit de certaines factions qu'Israël souhaite impliquer dans la gestion de l'enclave. Pour autant, les négociations ne sont pas enterrées. Israël compte envoyer une délégation au Caire, mais les deux parties ne sont pas d'accord sur la nature de cette trêve. Le Hamas en fait la fin de la guerre. Le Premier ministre israélien, une pause avant la reprise des combats. L'opération de ce matin pèse donc sur les discussions, sans prendre la forme pour l'instant d'une offensive hautement destructrice sur Rafah, qui est une ligne rouge posée par les États-Unis et la communauté internationale.
Merci Étienne Monin. Et pour continuer d'évoquer la situation à Gaza, invité de la rédaction à présent, Alain Diekhoff, directeur du Centre de Recherche International de Sciences Po et auteur notamment d'un ouvrage au titre en forme d'interrogation, Israël-Palestine, une guerre sans fin, publié chez Armand Collin. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ce matin, l'armée israélienne a donc lancé son opération dans l'est de Rafah. Est-ce que tout d'abord ce déploiement au sol était inévitable? Et si oui, quel but les autorités israéliennes espèrent-elles atteindre à travers cette attaque?
Inévitable, non. Je crois qu'il faut vraiment comprendre cette opération militaire dans le contexte général des négociations. En réalité, il faut bien voir qu'on assiste depuis quelques jours à une sorte de chassé-croisée entre les positions israéliennes et le Hamas. Et le Hamas ayant d'ailleurs, comme votre correspondant l'a dit très justement, quelque part relancé les hostilités dimanche après-midi en attaquant le poste de Kerem Shalom. Quelque part, on est dans une partie où chacun, finalement, essaye d'utiliser à la fois la négociation via les différents médiateurs, mais aussi à l'évidence la force pour peser et pour essayer d'obtenir un accord qui soit plus satisfaisant pour lui que pour l'autre.
Alors que sait-on justement des conditions proposées dans cet accord de cessez-le-feu, accepté donc hier soir par le Hamas, refusé par le cabinet de guerre israélien? Au regard des négociations qui se sont déroulées au Caire en fin de semaine dernière, peut-on dire que cette proposition d'accord était volontaire insatisfaisante et destinée à provoquer le refus de l'État hébreu?
Non, je pense simplement que chacun essaye de lâcher le moins possible et d'obtenir le plus possible. Donc ce qui semble se dessiner, en effet, c'est à minima un cessez-le-feu temporaire de 40 jours au cours duquel le Hamas libérerait 33 des 132 otages. Libérer étant entendu au sens large, malheureusement, c'est-à-dire à la fois des otages vivants, mais aussi certainement des otages décédés. Je pense qu'il y a deux incertitudes essentielles. C'est vraiment sur la suite, parce que Israël tient à avoir un accord global, y compris sur les autres otages qui sont encore détenus. Et puis l'autre enjeu important, là cette fois-ci surtout pour Hamas, c'est d'obtenir un cessez-le-feu permanent, alors que Israël préférerait avoir un cessez-le-feu temporaire pour la bonne et simple raison de pouvoir continuer à avoir un petit peu l'arme militaire un peu sous le coude, si je puis dire, si jamais le Hamas ne respectait pas la trêve. Donc voilà, on en est un petit peu là.
Les différentes pressions internationales, et notamment celles de Washington, n'ont pas permis d'empêcher cette opération à Rafah. Est-ce qu'il faut en déduire que les États-Unis sont impuissants désormais à peser auprès de leur allié israélien pour influer donc sur le cours des événements ?
Non, là aussi, je crois que c'est un jeu assez subtil qui se joue entre les deux. C'est-à-dire que les États-Unis fixent des lignes rouges à Israël tout en permettant qu'elle poursuive l'offensive par moment et en négociant certainement les termes. Je ne peux pas évidemment dire exactement comment l'offensive actuelle va se déployer, mais elle pourrait dans le fond être finalement relativement limitée, mais pour montrer que l'arme de la guerre continue d'être présente, et ce qui permettrait aussi aux Américains de dire qu'ils ont finalement obtenu une limitation des opérations.
Benjamin Netanyahou a de nouveau justifié de la décision de poursuivre l'opération à Rafah par l'objectif d'avancer vers la libération des otages. Et à l'inverse, l'association israélienne de proches des otages, le Forum des familles, a publié un communiqué affirmant que la trêve constituait une occasion d'avancer vers un retour pour le retour donc des personnes enlevées le 7 octobre. Aujourd'hui, lequel des deux scénarios entre une poursuite de la guerre donc et un accord de trêve serait le plus favorable au sort des otages ?
Pour les otages, il est très clair que un accord de cessez-le-feu qui garantirait la libération de l'ensemble des otages vivants ou décédés serait ce qui compte le plus. Évidemment, on peut tout à fait le comprendre. Hein. Ils veulent voir revenir chez eux les leurs. Donc évidemment, il y a une pression assez forte qui s'exerce pour la conclusion d'un accord. Je dirais pas quel qu'en soit le prix, mais quand même en n'essayant pas d'obtenir un prix nécessairement le plus élevé possible.
C'est bien compris. Merci Alain Diekhoff, directeur du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. Alors l'espoir de paix aura duré 2 heures à peine entre l'annonce du Hamas qui disait hier soir avoir accepté cet accord de trêve et puis le refus unanime du cabinet de guerre israélien. Et depuis ce matin, l'armée israélienne est entrée à Rafah, anéantissant presque aussitôt les espérances de milliers de manifestants qui la veille encore étaient descendus dans les rues de Tel Aviv, de Haïfa et de Jérusalem. Où vous êtes rendu, Thibaut Lefebvre, reportage.
Hier soir, à l'annonce du Hamas, Shai est sortie pleine d'espoir.
Je suis tendue, bien sûr. J'ai beaucoup d'attentes et je suis très excitée de pouvoir revoir Carmel très bientôt.
Quelques heures plus tard, c'est la douche froide. Pas d'accord et donc pas de perspective de libération pour sa cousine Carmel, otage du Hamas depuis 214 jours.
I'm scared.
J'ai peur. Israël est à Rafah. J'ai peur pour la vie de beaucoup de gens et j'ai peur pour la vie de ma cousine. On a besoin d'aide. On a besoin de l'aide du monde entier.
Shai et les quelques centaines de manifestants se sont rejoints hier devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Car pour Lewis et tous les autres, il est le principal responsable d'une guerre qui dure depuis 7 mois, jour pour jour.
Beaucoup de gens disent que Netanyahou est entre le marteau et l'enclume. Mais chez lui, le marteau et l'enclume se situent entre ses deux oreilles. Il n'en a rien à faire des otages, il s'occupe juste de lui-même, mais on ne s'arrêtera pas et on ne nous fera pas taire.
Ce matin, au Parlement, des proches d'otages ont supplié des députés de donner suite à la proposition d'accord du Hamas. Ils ont qualifié l'attitude de Benjamin Netanyahou d'irresponsable.
Un reportage à Jérusalem, signé Thibault Lefebvre.
Près de 2 mois après une réélection présentée comme triomphale, Vladimir Poutine a prêté officiellement serment ce matin pour un 5e mandat de président.
Oui, l'occasion pour le maître du Kremlin de se présenter une nouvelle fois en chef de guerre autoritaire face à une opposition intérieure laminée en Russie, mais aussi devant l'avancée de ses troupes sur le front ukrainien. Après les ors de l'Elysée, la neige des cimes, au deuxième jour de la visite d'État de Xi Jinping, Emmanuel Macron emmène son homologue chinois dans les Pyrénées aujourd'hui pour une escapade personnelle censée permettre des discussions fructueuses et amicales. Un cadre qui devrait assez fortement contraster avec celui du banquet fastueux organisé hier soir au palais présidentiel et au cours duquel les deux hommes n'ont pas cherché à dissimuler leurs différends sur le commerce comme sur la guerre en Ukraine.
Il est 2h41, vous écoutez France Culture et le journal de la rédaction avec vous Thomas Cluzel.
Un mois des élections européennes, si l'humeur est certes combative, l'optimisme reste encore assez largement mesuré au sein de la majorité présidentielle en difficulté dans les sondages, loin derrière le Rassemblement National, étalonné à présent sur sa gauche par la liste PS, Place Publique. Le camp macroniste a donc choisi de se donner rendez-vous ce soir, 7 mai, à la Mutualité à Paris, dans une double symbolique donc évidente au chef de l'État et surtout Rosalie Lafarge avec l'espoir nourri en interne d'enclencher un nouveau départ.
Le vrai lancement de campagne, c'est ce soir, pose l'état-major de la candidate, oubliant volontairement ou non que la même phrase a été prononcée en amont du premier meeting de Valérie Ayé début mars ou du deuxième discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne il y a 10 jours. Le même état-major insistant d'ailleurs quelques minutes plus tard sur le nombre de réunions publiques déjà effectuées depuis des semaines par les troupes présidentielles, plus de 600 dans toute la France. Ces réunions, les tractages, les porte-à-porte, les débats, tout cela n'a pas pour l'instant permis à la liste Ayé de décoller, mais pas question pour autant de mollir pour le porte parole de la campagne.
En tout cas, on a besoin et on a envie d'ailleurs de faire campagne tous azimuts.
Clément Beaune.
Et je vais le dire très clairement, hein, c'est vrai en particulier pour ceux qui croient à l'Europe. C'est une élection de mobilisation. Et toutes celles et tous ceux qui pensent que maintenant tout le monde est plus ou moins pro-européen. Toutes celles et ceux qui pensent que c'est pas la peine de voter le 9 juin. Toutes celles et ceux qui se font intoxiquer toute la journée par le Rassemblement National et d'autres qui leur disent c'est pas un scrutin pour l'Europe. Elle n'intéresse pas beaucoup. C'est un scrutin national. C'est une revanche d'une élection passée ou un prologue d'une élection à venir. C'est pas vrai.
Mobiliser les siens en priorité, d'où ce meeting un 7 mai à la Mutualité, date et lieu symbolique pour le président. C'est le jour de sa première élection, l'endroit où s'est tenu le premier événement d'En Marche. Retour aux sources, aux fondamentaux et démultiplication des forces. Tout le gouvernement ou presque sera là ce soir. Gabriel Attal prendra la parole. Chaque ministre est aussi appelé à aller sur le terrain jeudi pour la journée de l'Europe. Il faut, assume-t-on, autour de Valérie et appuyer sur tous les boutons pour tenter d'inverser au moins le bruit de fond.
Toujours dans la perspective du scrutin le 9 juin prochain, les 27 académies des sciences de l'UE ont décidé, elles, de s'unir pour interpeller les candidats. Une initiative rarissime en forme de sauf qui peut dans un contexte de très forte incertitude, qu'il s'agisse de la montée de la désinformation, de la poussée des populismes ou bien encore du déni face au changement climatique. Cécile de Kervas-Douai, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Dans une tribune publiée hier, les scientifiques appellent donc notamment à préserver la coopération scientifique internationale, et ce, Cécile, alors que nombre de partis politiques, on le sait, promeuvent à l'inverse une Europe forteresse.
Et oui, car cette campagne, qui semble vouloir se focaliser sur des questions sécuritaires et migratoires, met à mal les principes fondamentaux de la recherche scientifique, comme cette fameuse mobilité. C'est ce que m'a expliqué Alain Fischer. Il est professeur d'immunologie et président de l'Académie des sciences en France.
La présence de gens d'horizons différents a un rôle essentiel dans la créativité de la recherche. Donc cela aurait un rôle délétère sur le bon fonctionnement de nos universités, de la recherche scientifique et donc in fine eh bien, des développements économiques, parce que c'est de la recherche scientifique que naissent les progrès, les capacités d'innovation et de développement économique.
Car l'économie, c'est l'autre sujet d'inquiétude des chercheurs européens. Si le traité de Lisbonne, c'était il y a 20 ans, stipulait que les États membres devaient prévoir 3% de leur PIB pour les investissements de recherche, eh bien, mis à part l'Allemagne, aujourd'hui, peu de pays le respectent. Et donc, la recherche s'appuie énormément sur les financements de l'Union européenne.
À l'échelle de l'Europe, le budget de la recherche est le troisième budget de l'Union européenne, qui n'est pas négligeable. Et il soutient des programmes de très haute qualité. Je pense en particulier un programme de soutien à la recherche fondamentale qui finance les meilleures équipes de recherche fondamentale, quel que soit le domaine. Donc il est essentiel que les députés qui vont être élus bientôt aient conscience de l'importance de l'effort que l'Union européenne met dans les investissements de recherche scientifique, les préserve et même si possible les renforce.
Des investissements qui doivent ensuite servir à mieux conseiller les politiques européens, par exemple pour agir face au réchauffement climatique. Ce sujet si fondamental, pourtant éclipsé de la campagne européenne.
Merci Cécile de Carvaz-Doué.
Harcèlement, violence sexiste et sexuelle, plafond de verre et renoncement de carrière.
Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 78% des femmes disent avoir été victimes d'une situation de discrimination ou de harcèlement lié à leur genre durant leurs études médicales. Sauf que la parole des victimes n'est pas systématiquement crue ni protégée, pis encore. Puisque pour un médecin sur trois, entamer une démarche officielle ne sert à rien. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors ces chiffres sont issus de la dernière enquête menée par le syndicat Jeunes Médecins, lequel alerte depuis 5 ans déjà sur les discriminations et les violences sexistes à l'hôpital, sans que visiblement donc rien ne change.
Effectivement, la vague MeToo a eu beau déferler sur l'hôpital, les pratiques ne changent pas. En 2019, quand le syndicat interroge 3000 médecins à l'époque, la moitié des femmes répondent déjà se sentir discriminées en raison de leur genre. 1 sur 10 avoue aussi ne pas prendre son congé maternité normalement parce qu'elle a peur de voir s'éloigner une perspective de carrière. En 2024, aujourd'hui, le constat est pire encore. 3% seulement des 193 médecins que le syndicat vient de sonder entre le 24 avril et vendredi dernier, 3% seulement donc des victimes disent porter plainte et 2% saisir un syndicat ou une chef de service. L'omerta règne en maître dans les établissements hospitaliers. Hier, comme aujourd'hui, confirme la pédiatre Anna Boctor, vice-présidente de Jeunes Médecins, qui sait de quoi elle parle.
Je suis entrée dans le syndicat par ce combat, parce que j'étais moi-même victime de discrimination. On m'a demandé de ne pas faire d'enfant pour avoir un poste, et j'ai refusé. Et donc ma carrière s'est arrêtée net, parce que la personne qui m'a demandé de faire ça était ma chef et faisait d'appui le beau temps sur ma carrière. Et donc c'était une femme, hein, et elle a totalement saboté ma carrière, hospitalière en tout cas. Et donc c'est ça que je veux dénoncer. Ça a toujours cours, bien sûr, et que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes profils favorisés au sommet de la hiérarchie qui, entre guillemets, agissent de cette manière. J'en ai pas parlé parce que j'avais pas de preuves écrites. Évidemment, les gens qui sont témoins, parce qu'il y a des témoins, ne témoigneront jamais pour les mêmes raisons. Donc c'est très compliqué quand on est une victime d'avoir des preuves écrites, parce qu'ils ont l'habitude, hein, ils laissent aucune trace écrite. Ils le disent par téléphone, à l'oral, à huis clos, vous voyez.
Hier, le syndicat a été reçu avenue de Ségur sur ce même sujet des violences sexistes et sexuelles, mais en l'absence, souligne-t-il, du ministre.
Merci Tara Schlegel.
La commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT de nouveau dans la tourmente.
Oui, après 6 mois de travaux, le rapport final doit être examiné ce soir, sauf que déjà une majorité des membres de la dite commission assure ce matin qu'elle ne signera pas le texte en l'état. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
En l'occurrence, les députés expriment leur désaccord avec plusieurs des 47 propositions. Position faite dans ce rapport.
Oui, ce rapport est rédigé par le rapporteur Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise. Contacté hier, il semblait plutôt confiant sur l'issue du vote de ce soir. La plupart des propositions sont consensuelles, nous assurait-il. Eh bien, ce matin, cela semble être tout l'inverse. C'est un non catégorique pour les 5 députés du Rassemblement National. Ils dénoncent une obsession contre Vincent Bolloré. Les députés de la majorité et des Républicains, eux, vont tenter la médiation. Ils demandent au député Aurélien Saint-Toul de retirer 19 propositions qu'il juge inacceptables, voire pour certaines dangereuses. Un chantage et une tentative de censure dénoncent ce matin le rapporteur. Alors pour le moment, le rapport n'est pas public, mais d'après les informations de notre consoeur Céline Baydarcourt de France Info, parmi les préconisations de l'élu insoumis figure l'interdiction pour les chaînes d'information d'avoir des éditorialistes à l'antenne, la fin de la TNT payante ou encore le bannissement des dessins animés avant l'école. D'autres propositions propositions sont jugées hors sujet, comme le renoncement au projet de holding de l'audiovisuel public. Le député insoumis, lui, estime ce matin que le rapport différencie bien les faits issus des 45 auditions et les propositions issues, elles, de ses convictions politiques. Il appelle donc ses collègues à la raison et à voter ce texte pour rendre public les conclusions des 6 mois de travaux. Car si le rapport est rejeté ce soir, le texte sera enterré, mis aux archives pour 25 ans, sans être rendu public.
Merci, Jeanne Serrin. Elle était la voix de la Grèce sur les antennes de Radio France depuis plus de 30 ans. Angélique Kournis, journaliste et documentariste aussi passionnée qu'engagée, est décédée la nuit dernière des suites d'une longue maladie. Elle était âgée de 61 ans. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore agité sur une grande partie du pays. Les précipitations se feront toutefois de plus en plus rares sur le nord et le nord-ouest. Et puis les régions méditerranéennes, elles resteront définitivement à l'écart de ce régime d'averse. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.